à vous, Mathilde Davina, d'être parmi nous ce soir pour présenter votre ouvrage dans la garde-robe de Marie-Antoinette. Alors, beaucoup d'amis de Versailles vous connaissent déjà, mais voilà, je ne risque pas l'idée de vous présenter en quelques mots. Alors, depuis 2010, vous êtes directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles, donc qui a pour objet la société de cours en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous êtes donc notamment en charge du suivi scientifique, de l'organisation des colloques et de l'organisation des programmes de recherche. Vous êtes l'auteur de plusieurs articles et ouvrages et intervenez dans plusieurs éditions audiovisuelles. Vous travaillez aujourd'hui spécifiquement sur les usages de la cour de France, donc maison du roi, domesticité royale et princière, et notamment sur le fonctionnement quotidien du château de Versailles sous l'Ancien Régime. Vous avez donc à ce propos publié plusieurs ouvrages, dont Le Versailles de Louis XIV en 2009, Au service du roi dans les coulisses de Versailles en 2015 et Versailles, histoire, dictionnaire et anthologie en 2015. Et là, vous venez donc de publier fin 2018 un nouvel ouvrage, Vivre à la cour de Versailles en 100 questions, donc, que vous pourrez trouver notamment sur cette table. Vous êtes également donc, vice-président du conseil d'administration de la société Saint-Simon. Et enfin, donc, vous préparez avec Alexandre Maral une exposition pour célébrer le tricentenaire de la mort de Madame de Maintenon qui se tiendra du 15 avril au 21 juillet. Donc, c'est une exposition qu'on a hâte de découvrir. Voilà, je vous laisse la parole. Juste deux choses. Sachez que la revue Versailles, donc le numéro 22, vient d'arriver. Donc, vous pouvez le commander sur notre site internet. Ou bien venir le chercher directement à notre bureau. Et nous avons également la carte de vœux 2019 de la Société des Amis de Versailles que vous pouvez également donc, commander sur le site internet ou vous pouvez venir retirer également au bureau. J'ai déposé sur la table ici des bulletins de commande donc, pour la revue Versailles et pour la carte de vœux si vous êtes intéressé.
Merci beaucoup pour cet accueil et merci aux amis de Versailles de nous recevoir toujours aussi chaleureusement pour vous présenter nos derniers travaux. Et aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, vous parler d'un document qui est assez inédit et surtout très intéressant. Et on va rentrer un petit peu, peut-être avant de venir au vif du sujet, vous parler de cette découverte. Il se trouve que j'adore les archives et que je consulte assez régulièrement les archives notariées versaillaises et parisiennes, sans but très précis, hein, je ne vais pas dire que c'est une découverte fortuite, mais un petit peu quand même, puisque maintenant, depuis quelques années, nous avons la chance, chercheurs, d'avoir sur Internet les répertoires des notaires. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de ce genre de choses, mais à l'époque du XVIIe et XVIIIe siècle, on parlait de royaume de papier, c'est-à-dire que chaque fois que vous alliez faire la moindre petite affaire, tout passait devant notaire, ce qui nous permet à nous, quelques centaines d'années plus tard, de pouvoir reconstituer éventuellement des destinées. Et depuis une petite dizaine d'années, à la fois les archives nationales et les archives départementales ont mis en ligne ce qu'on appelle les répertoires des notaires, c'est-à-dire que vous avez les registres qui ont été numérisés, dans lesquels vous avez de brefs aperçus des actes les uns derrière les autres. Et comme parfois, pour me détendre ou alors que je m'ennuie, je m'amuse beaucoup à regarder ces répertoires de façon un petit peu aléatoire et noter des noms qui me paraissent intéressants. Et c'est comme ça que depuis quelques années, je me suis fait un petit tableau personnel dans lequel j'ai un certain nombre de milliers d'actes que je vais voir au fur et à mesure. Il se trouve que l'acte dont je vous ai parlé a dormi quelques mois avant que je le découvre, et c'est grâce à Jean-Pierre Poussou, le recteur Jean-Pierre Poussou, qui était professeur à la Sorbonne, spécialiste notamment de l'histoire des vins, que j'ai croisé en juin 2017 aux Archives nationales, et je l'ai interrogé, tout comme mon ancien professeur, savoir sur quoi il travaillait. Il m'a dit: je travaille sur les caves à vin des courtisans ou des grands personnages de la cour. Et je lui ai promis d'aller regarder dans mes inventaires d'après décès dont je disposais, s'il y avait des caves à vin. Et donc je commençais à compulser des actes que je n'avais pas encore totalement consultés. et je lui ai envoyé progressivement donc des photographies de ces caves à vin qui étaient plus ou moins importantes. Et en regardant donc tous ces inventaires, je suis tombé sur l'inventaire de la duchesse de Villars, dont je vais vous parler par la suite, qui était la dame d'atour de Marie-Antoinette. Et à la fin, je tombe sur un inventaire où il y a écrit une description, je ne sais plus, comment on verra tout à l'heure avec l'état exact, mais état des vêtements, habits de Madame Foraine et de Madame la Dauphine. Et cet inventaire se déclinant sur 36 pages. Et donc c'est de cela dont je vais vous parler. Alors je n'ai pas réalisé tout de suite ce dont il s'agissait, puisque ce n'était pas ma période de prédilection, Marie-Antoinette. Je me jurais de ne jamais travailler sur Marie-Antoinette, n'ayant pas une affection particulière pour la reine. Néanmoins, c'est vrai que depuis quelques années, je me suis un petit peu descendu, remonté au 18e siècle, en quittant le 17e siècle que je pratique depuis près de 22 ans maintenant. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé sous divers aspects. Et j'ai assez vite compris qu'en regardant un petit peu, on savait jusqu'à présent chez qui Marie-Antoinette allait pour s'habiller. On savait à peu près combien ça coûtait par an, mais on n'avait pas jusqu'à présent, à un instant T, ce qu'il y avait dans sa garde-robe. Alors, comme je vais vous le dire immédiatement, l'intérêt est immense, hein, évidemment, d'avoir ces 36 pages sur la description de la garde-robe de Marie-Antoinette. Mais on est malheureusement, on ne peut pas être agréablement surpris partout, on est en 1771, donc c'est au moment où elle est dauphine et non pas encore reine de France. Donc c'est véritablement là-dessus que mon propos va se fonder, c'est-à-dire sur la période 1770-1774, donc avant que Marie-Antoinette ne devienne reine de France, et soit depuis son mariage avec le duc de Berry, donc le futur Louis XVI, jusqu'à son accession au trône en mai 1774. Je vais peut-être poser ça peut être plus simple, parce que sinon vous allez m'entendre par intermittence. Voilà. Et on s'aperçoit que dans ce laps de temps, elle n'était pas tant une victime de la mode qu'une victime de l'étiquette. C'est-à-dire qu'on le verra bien, c'est bien plus tard, au moment où elle deviendra reine, qu'elle va laisser libre cours à son goût pour la mode avec Rose Bertin, alors qu'ici elle est une simple petite princesse bien élevée et qui écoutait évidemment ce qu'on lui disait. Alors cette conférence, comme vous l'avez compris, se fonde essentiellement sur mon livre « Dans la garde-robe de Marie-Antoinette » et lequel s'appuie, comme je vous l'ai dit, sur l'inventaire après décès de la duchesse de Villars, contenant lui-même donc un état de la garde-robe de Marie-Antoinette, dauphine, en 1771. Tout d'abord, je vais faire un rappel, alors je suis très gêné de le faire devant vous, parce que je pense que vous êtes tous des spécialistes, non seulement de Versailles, mais aussi de ses habitants, mais rappeler un petit peu qui était Marie-Antoinette en 1770 et ce qui l'en était. Alors, lorsqu'elle arrive en France, on a ici un portrait de Marie-Antoinette, plutôt à la cour de Vienne, vous voyez, dans un vêtement qui est assez différent de ceux qui étaient au même moment à Versailles ou à Paris. Et elle est loin, en fait, l'archiduchesse d'Autriche est loin de répondre à l'idée que l'on se fait de la mode quand elle sera reine. Là, on est vraiment dans un style extrêmement classique et même plutôt différent de ce qui existe au même moment en France. Élevée dans l'objectif de devenir la reine de France, sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, l'a préparée depuis son plus jeune âge aux us et coutumes de la cour versaillaise classique. Plusieurs professeurs ont été engagés pour parfaire son éducation française. On a ainsi Lauvert qui est engagé pour lui apprendre la danse française, tandis que les comédiens français Offrène et Saint-Ville lui donnaient des cours de diction. Alors ces deux comédiens ne vont pas être sans choquer Louis XV, alors, même si Louis XV, vous le savez, pouvait parfois avoir des maîtresses qui n'étaient pas forcément de la haute aristocratie, voire des comédiennes, voire bien plus bas que des comédiennes, il va quand même mettre le holà et demander à ce qu'on prévoie d'autres professeurs que des simples comédiens français. Et c'est ainsi que l'abbé de Vermont va être choisi pour, euh, parfaire l'éducation de Marie-Antoinette, l'abbé de Vermont, c'est l'homme lige du futur cardinal de Brienne, hein, l'homénie de Brienne, qui à l'époque était encore archevêque de Toulouse, et qui deviendra notamment contrôleur général des finances quelques 20 ans après, en 1787. Donc c'est vraiment lui qui est choisi, et évidemment il n'était pas question de quelconque fantaisie lors de cette éducation. Son union avec le dauphin devait symboliser le renversement des alliances qui avaient été signées en 1756 par le traité de Versailles, où on a la France via les Bourbons de France et les Habsbourg de Vienne, qui étaient des ennemis séculaires, qui deviennent amis après avoir été ennemis pendant de nombreux siècles, contre la Prusse et précédent allié de la France, et l'Angleterre, précédent allié de Vienne. Donc ce mariage auquel on pense dès ce traité de 1756 ne se matérialise finalement qu'assez tard. On sait que Louis XV, puis l'impératrice Marie-Thérèse y pensent dès le début des années 1760, même 1763, et finalement tout cela va être un petit peu plus allongé, puisque on sait que la mère de Louis XVI, Marie-Joseph de Saxe, rêvait pour son fils évidemment d'une princesse saxonne, ce qui ne se fera pas. Et à sa mort, du coup, en 1768, Louis XV, qui faisait lanterner Marie-Thérèse, profite de la mort de sa bru pour finalement envoyer une demande officielle de ce mariage. Voilà, je vous ai pas mis, bon, ce sont des portraits que vous connaissez, sur, qui datent à peu près du moment où on envisage de les marier. Le 19 avril 1770, Marie-Antoinette épouse donc par procuration Louis-Auguste de Bourbon, duc de Berry et dauphin de France, représenté par l'archiduc Ferdinand, l'un des frères aînés de la mariée, et la cérémonie se déroule vers les 6 heures du soir en l'église des Augustins de Vienne. Comme le rapporte l'un des organes de presse officiels de la monarchie, la Gazette de France, le 11 mai 1770, la future reine de France, je cite, « était vêtue d'une robe de drap d'argent. La comtesse de Trostmendorf, grande maîtresse de son Altesse royale, portait la queue. » La jeune princesse arborait sans doute là, pour la dernière fois, un vêtement autrichien, une tenue autrichienne, car dès le surlendemain, elle se mettait en route pour sa nouvelle nation, abandonnant son pays natal, dont elle aura toute sa vie la nostalgie. Le comte Philippe de Noailles, qui était le gouverneur de Versailles, a dans le même temps été dépêché à Strasbourg comme envoyé extraordinaire sur la frontière française pour organiser les préparatifs de l'arrivée de la nouvelle princesse et l'accueillir au nom de Louis XV. L'ambassadeur, en tout cas l'envoyé, puisqu'il a un titre d'ambassadeur extraordinaire, est à la tête de la délégation d'une grande partie de la maison de la Dauphine, c'est-à-dire les personnes à son service, et qu'il devait lui présenter. Pour la plupart, ces différents officiers, c'est-à-dire des domestiques hommes et femmes, ont servi la défunte épouse de Louis XV, Marie Leczinska. En effet, à la mort de, initialement, tous les personnels de Marie Leczinska devaient passer à la dauphine, mais la dauphine mourant à son tour. Je vous ai dit 68, tout à l'heure c'est 67, pardon, c'est la reine qui est morte en 68. La dauphine Saxe mourant en 1767, finalement, ce sont les officiers de la reine, laquelle meurt en 68, qui passent directement à la dauphine. Et on a donc déjà, parmi tous ces domestiques, moi ces serviteurs, on peut nommer celles et ceux qui suivent le comte de Noailles. Il y a notamment son épouse, comme dame d'honneur, hein, qui est... donc Madame de Noailles, qui est la fameuse la comtesse de Noailles que Marie-Antoinette appellera Madame l'Étiquette. On a également la duchesse de Villars comme dame d'Atours, qui, comme on le verra, est la propre sœur de Noailles, et qui sera chargée donc des habits de la dauphine. Il y a également la duchesse de Piquigny, la marquise de Duras, les comtesses de Mailly et de Sautavanne, qui étaient des dames devant accompagner la dauphine. On n'appelait pas ça des dames du palais, c'est une subtilité d'étiquette, mais seule la reine a des dames du palais, la dauphine ayant des dames pour l'accompagner, sachant que c'est exactement la même chose.
ou encore le comte de Sotavanne, qui était chevalier d'honneur, lequel avait la haute main sur les domestiques masculins. Alors, on voit très bien qu'avec cette suite de domestiques qui avaient tous servi Marie Leszczyńska, parfois depuis plusieurs dizaines d'années, on a une différence d'âge vraiment très importante entre cette jeune fille qui arrive, qui apparaît à 14 ans, et des domestiques qui en ont, pour la plupart, plus de 50. Donc, il y a vraiment un décalage entre les personnages. Alors, en dépit de quelques difficultés relatives à l'étiquette et au protocole, finalement, tout est fin prêt pour accueillir Marie-Antoinette en temps voulu. Alors, les problèmes d'étiquette, c'est évidemment toujours les querelles entre l'Autriche et la France pour savoir qui va avoir le pas sur les uns et sur les autres. Cette réception à Strasbourg est aussi l'occasion de rectifier certaines légendes qui persistent encore autour de cet événement. Il en est ainsi de celle qui veut que Marie-Antoinette ait été pratiquement mise toute nue devant tous ses serviteurs qui l'attendaient dans le fameux pavillon de remise. Et tout cela est dû à une lecture un peu rapide, voire hâtive, de Madame Campan. En effet, 4 ans après la première édition des mémoires de Madame Campan, dont ces mémoires ont été publiées en 1822, on a un auteur à l'identité douteuse. Alors vraisemblablement, il s'agirait de Catherine Hyde, marquise de Gouvion Broglio Solari, d'après les recherches, où en 1826, donc, on a quelqu'un qui écrit des mémoires relatifs à la famille royale de France pendant la Révolution, et qui reprend sur un ton humoristique, mais assez sensé, les prétendues assertions de la femme de chambre de la reine. C'est-à-dire qu'évidemment, Madame Campan explique dans ses mémoires que la reine a été déshabillée, etc. Et vous savez, c'est à partir de cela que les gens extrapolent et qu'on imagine évidemment Madame la dauphine toute nue devant tout le monde pendant qu'on la change, on lui enlève ses vêtements autrichiens pour l'habiller des vêtements français. Et voilà ce que disent donc ces mémoires de 1826, non pas de Madame Campan, mais ceux relatifs à la famille royale. Je vous mets la citation comme ça, vous verrez. Les détails que donne Madame Campan sur l'arrivée de Sa Majesté à Kehl, où Marie-Antoinette quitta ses habits d'Autriche pour revêtir ceux de France, conformément à l'étiquette observée en pareille occasion, ces détails, dis-je, caractérisent d'une manière si frappante cette infortunée princesse que je ne puis m'empêcher de m'y reporter, encore bien que l'authenticité de certaines particularités ne me soit suffisamment démontrée. Et en effet, par la suite, elle écrit « Passé encore que certaines femmes d'Égypte puissent apparaître légèrement dénudées en puisant de l'eau à la fontaine, mais, je cite, qu'une princesse autrichienne, comme si elle eût été frappée de vertige, soit exposée dans cet état au regard curieux de 40 ou 50 oisifs, peut-on le croire ?» Et finalement, la lecture attentive des archives et des récits officiels de l'événement suffit en effet à démentir cette affirmation. Les relations qui rapportent l'événement se montrent plutôt muettes sur cette scène qui n'aurait pas manqué d'être racontée si elle avait réellement eu lieu. Marie-Antoinette est arrivée à Kehl, sur la rive droite du Rhin, le matin du 7 mai 1770. Pour être remise, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on remettait la princesse autrichienne à la France, officiellement aux autorités françaises, sur les environs de midi, un bâtiment spécifique avait été élevé sur l'île aux épis, entre Kehl et Strasbourg, à l'endroit même où la dauphine Saxe, sa belle-mère, avait été accueillie par la France en 1747. Le décor était l'œuvre des magistrats de la ville de Strasbourg. Et vous avez ici le pavillon de remise qui est représenté, qui provient des archives de Strasbourg. Il était composé de 5 pièces principales successives que vous pouvez apercevoir, donc séparées évidemment par cette salle centrale, respectant une symétrie parfaite à partir de la pièce de remise au centre. De l'ouest vers l'est se déployait ainsi l'antichambre française, qui servait de salle des gardes, le grand cabinet français, qui faisait office de salle des nobles, la salle de remise, donc au milieu, ensuite le grand cabinet autrichien, l'antichambre autrichienne, et chacune de ces antichambres ayant des cabinets et qui avaient également des garde-robes et des petits cabinets, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne sais pas si on voit la flèche. Oui, alors, attendez, par ici. Donc vous voyez écrit garde-robe, cabinet, cabinet, garde-robe. Ah, pardon. Tac, c'est un peu sensible. Les papiers des menus plaisir, département de la maison du roi de France chargé de d'organiser les grandes cérémonies royales, évoque rapidement le décor de la pièce centrale, laquelle, je cite, était garnie d'un fauteuil sous un dais avec estrade et une table ouverte couverte d'un tapis. Ils ne font aucunement mention de l'habit de Marie-Antoinette. Alors celle-ci, voilà les papiers du menu plaisir, je cite, est entrée dans cette pièce, celle du milieu du pavillon, par le côté de l'Allemagne, accompagnée de M. de Starenberg, donc est l'envoyé extraordinaire d'Autriche. Étant dans cette salle, la lecture des pleins pouvoirs s'est faite, ainsi que l'acte de remise et de réception de Madame la Dauphine. Après la lecture de l'acte de remise, un des battants de la porte s'ouvrit, un peu trop tôt à ce que prétendit M. Bourret, donc qui est le secrétaire du cabinet en France, ce qui procura aux côtés de la France de voir les adieux des dames et grands officiers autrichiens qui furent admis à baiser la main de la princesse. Dans la description donnée dans les papiers du grand maître des cérémonies, donc lequel est en charge du cérémonial lors des grandes manifestations de monarchie, à la date du 7 mai, le rédacteur fait quant à lui état d'une simple allusion. Il fait une simple allusion aux vêtements. Madame la Dauphine arriva à midi à Strasbourg, à la maison de remise, construite d'après les ordres du roi par les soins des magistrats de la ville, dans une des îles et meublée du garde-meuble de Sa Majesté. Madame la Dauphine, suivie de toute sa cour autrichienne, mit pied à terre dans la partie de ce bâtiment destinée pour cette cour et, après s'être habillée, elle se rendit dans la salle destinée à la cérémonie de la remise. Alors si Marie-Antoinette s'est bel et bien changée, ce fut donc à l'abri des regards extérieurs, on en a encore pour preuve la correspondance diplomatique et les échanges qu'ont eu la France et l'Autriche à ce sujet au mois de mars précédente. En effet, l'impératrice et ses agents se sont enquis sur la manière dont Marie-Antoinette devait s'habiller et la France, par la voix de son premier commis des affaires étrangères, avait prodigué des conseils sur la façon dont la dauphine devait apparaître aux dames et officiers de sa maison dans une tenue respectant les usages français. Voilà la lettre. Selon notre usage, les dames françaises assisteront à la remise en habit de cour parce qu'elles doivent ce respect à leur maîtresse, mais cette princesse n'y serait pas parce qu'elle ne doit qu'au roi quand elle sera en sa présence. Cependant, comme dans le monde même du passage, Madame la Dauphine ne peut encore se conformer à notre étiquette. Il dépendra d'elle entièrement ou de se mettre ce que nous appelons en petite robe, riche néanmoins, ou de prendre l'habit de cour. Vous voyez, tout cela est extrêmement codifié. Dans la garde-robe de l'appartement autrichien, toujours selon la correspondance diplomatique, la nouvelle dauphine quittait sa robe de voyage, je cite, en gros de tour blanc, pour revêtir une robe et jupon d'étoffe d'or. C'est donc bien habillée et, je cite, à la française des superbes atours envoyés de Paris, selon les mémoires de la baronne d'Oberkirch, que Marie-Antoinette se présentait à ses officiers, prête pour sa nouvelle vie de future reine de France. Il est vrai que Madame de Oberkirch, qui reviendra par la suite à la cour de France, était originaire d'Allemagne et était présente et a décrit très précisément cette remise de Marie-Antoinette. Et on a par ailleurs dans la correspondance de Marie-Thérèse, au mois de mars, effectivement, elle a envoyé en France des marchands lui préparer des robes françaises pour Marie-Antoinette. Avant de recevoir somptueusement la nouvelle dauphine et sa maison dans le palais épiscopal de la ville, le cardinal de Rouen, évêque de Strasbourg, semble avoir commis quelques impairs. En effet, pour habiller la salle principale de la remise, il a fourni ses propres tapisseries personnelles et le choix n'a pas été totalement heureux, car il n'a rien trouvé de mieux que de fournir des tentures évoquant l'histoire de Médée et Jason, couple de l'histoire évidemment le plus mal assorti. Et comme le rapporte toujours la baronne d'Oberkirch, spectatrice de la scène, ce ne fut pas sans surprendre Marie-Antoinette qui s'était écriée alors, je cite, « Ah, dit la jeune dauphine à sa femme de chambre allemande, voyez quel pronostic !» Les fêtes de mariage officielles se sont déroulées donc à Versailles les 14, 15 et 16 mai suivants. Donc, je ne reviens pas sur ce mariage. Donc j'en viens maintenant plus précisément à la garde-robe de Marie-Antoinette et au fonctionnement de ce service de la dauphine ou de la reine. Quand elle arrive à Versailles, Marie-Antoinette dispose d'une maison à la tête de laquelle se trouve une dame d'honneur, la comtesse de Noailles, secondée par la dame d'Atour, la duchesse de Villars, en charge de l'achat des vêtements. Et là, vous avez la généalogie qui permet de voir comment la famille de Noailles en fait, qui était déjà une famille assez puissante hein, au XVIIe siècle, puisqu'ils étaient capitaines des gardes du corps, mais on voit que véritablement le déclenchement de l'ascension familiale, c'est ce petit mariage de la nièce de Madame de Maintenon avec Adrien Maurice, duc de Noailles, en 1698, et ce mariage qui est une sorte de, on pourrait dire, d'échéance hein, pour certaines grandes familles d'accepter de se marier avec une nièce de Madame de Maintenon, mais qui va les porter tout au long du XVIIIe siècle, et on voit ne serait-ce qu'avec cette petite descendance, avec cette descendance, pardon, que toute la famille va squatter, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression, les plus grandes charges de la cour. Et donc vous avez ici Gabriel Amable de Noailles, qui ici, qui est ma mon héroïne du jour, qui est la dame de la tour dans lequel, l'inventaire de laquelle on a retrouvé, j'ai retrouvé cet inventaire. Et vous voyez finalement tous les restes de mes sœurs qui sont mariées au prince d'Armagnac, qui est donc le premier écuyer, Jacques Nampart de Caumont, également à Gossé-Brissac, moi Louis duc de Noailles, donc, qui est capitaine des gardes du corps, qui est marié à Gossé-Brissac, ou encore Philippe, qui est le gouverneur de Versailles, qui est marié à Anne-Claude Louise d'Arpajon, laquelle est la dame d'honneur de Marie-Antoinette. Et enfin, Marianne-Françoise, qui est mariée au comte de la Marque. Donc, elle appartient à l'une des familles les plus puissantes de la cour, et elle est née à Versailles le 18 février 1706. Elle est la deuxième fille d'Adrien Maurice, duc de Noailles, et de Françoise Charlotte Amable d'Aubigné, nièce de Madame de Maintenon, laquelle a épousé, donc ma demoiselle de Noailles a épousé le duc de Villars le 5 août 1721, Armand Honoré, deuxième duc de Villars, qui est le fils du célèbre maréchal de Villars, grand maréchal de guerre de Louis XIV. Sa vie est assez romanesque, en fait, on pourrait en parler, il y a quand même une vie assez impressionnante. Elle est mariée, comme vous le voyez, en 1721, mais elle est enceinte dès 1723, non pas de son mari, mais du bâtard d'Orléans, qui est Jean-Philippe d'Orléans, donc qui était lui-même le bâtard du régent, et, mais qui a été reconnu. Et leur fille, Amable Angélique, est reconnue par le duc de Villars, et elle épousera en 1744 le comte d'Aigemont, les Pignatelli, et à la mort de son mari en 1704, elle découvre coup sur coup que non seulement elle ne pourra pas se remarier, parce que sa mère lui déclare qu'ils avaient déjà eu beaucoup de chance de pouvoir la marier en étant une fille bâtarde d'un bâtard, c'est, tout s'écroule pour cette pauvre comtesse d'Aigemont en 1754, et elle se retire, elle prend le voile et se retire au couvent de Calvaire à Paris. Et finalement, sa mère, donc la duchesse de Villars, toute sa vie expiera cette faute, comme on peut notamment le lire entre les lignes de son testament, qui est assez intéressant dans une partie du testament. Et c'est vrai que quand on n'a pas ce bagage, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et là, vous voyez, donc je renouvelle de tout mon cœur les vœux. Je veux mourir entre les bras ras de cette même église, me soumettant de cœur et d'esprit à toutes les décisions quelconques que je crois toute fermement, et là je demande pardon de tous les scandales que j'aurais pu donner et de toutes les peines que j'aurais pu faire. Alors c'est vrai que quand on ne sait pas qu'évidemment à 16 ans elle était, heureusement à 16 ans elle est née en 1706, donc non, à 17 ans elle tombe enceinte de quelqu'un qui n'est pas son mari, évidemment on peut comprendre par la suite toute cette expiation. J'en reviens donc à la duchesse de Villars, qui a d'abord été dame du palais de la reine par brevet du 19 janvier 1728. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui, on parle de 40 ans après, hein, en 1768, 42 ans après, quand Marie-Antoinette arrive. La duchesse de Villars devint, à la mort de la duchesse de Mazarin, dame d'atour de la reine Marie Leczinska le 13 septembre 1742. Et enfin, Louis XV l'a choisie le 1er avril 1770, comme dame d'atour de l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette, future dauphine de France, et elle est par ailleurs la belle-sœur d'Anne-Claude Louise d'Arpajon, donc je vous remets un peu le qui est là, donc c'est la belle-sœur d'Anne-Claude Louise d'Arpajon, dame d'honneur de la dauphine, laquelle a épousé son frère Philippe, comte de Noailles, Et finalement, dans la hiérarchie de la maison de la princesse, la duchesse de Villars se trouve donc être la subordonnée de sa jeune belle-sœur, qui est née en 1729, alors qu'elle est née en 1702. La garde-robe de la dauphine relevait de l'autorité de sa dame d'Atours. D'après les différents règlements, le rôle de la dame d'Atours, en charge précisément de la garde-robe de la princesse ou de la reine, consiste précisément à commander et faire fabriquer les atours de celle-ci. La duchesse de Villars, que vous voyez ici, et là vous la voyez en tenue pénitente, hein, du moins je vous rappelle tout à l'heure que toute sa vie elle va se rappeler qu'elle avait fauté dans sa jeunesse, et donc là on a quand même un portrait qui est assez significatif, qui a été en vente, je ne sais pas dans quelle collection il est, ça provient d'un catalogue des ventes, mais vous l'avez ici représenté. Donc, la duchesse de Villars avait sous ses ordres un personnel spécifique, avec des femmes de garde-robe, des lingères, des blanchisseuses, etc., mais faisait aussi appel à des tailleurs, couturières et autres ouvriers et ouvrières de mode. Comme dame d'Atours, elle recevait 600 livres de gage, hein, ce qui n'est pas énorme. Il faut savoir que le salaire moyen d'un ouvrier qualifié, était de 500 livres par an à peu près. Donc elle reçoit 600 livres de gage, mais auxquels s'ajoutent évidemment 3600 livres pour sa nourriture, 886 livres pour ses carrosses et 4000 livres de pension, soit 9086 livres annuellement. Si la somme était loin d'être négligeable, je vous ai donné à peu près le salaire annuel d'un ouvrier qualifié 500 livres, et une belle maison à porte cochère à Paris, c'est à peu près 20 000 livres. Donc vous voyez, elle gagne à peu près la moitié du prix d'une maison par an, ce qui n'est pas négligeable. Elle pouvait aussi compter sur d'autres revenus. Voilà, donc ici, je ne sais pas si... Non, c'est peut-être un peu petit pour lire, mais en tout cas, vous avez ici les gages de la dame d'Atours, de la dame d'honneur, etc. En effet, les à côté, ce sont les fameux droits de charge, c'est-à-dire les avantages en nature que lui confère sa charge de dame d'Atours, et elle peut notamment prétendre à ce qu'on appelait la réforme des habits de la dauphine ou de la reine. Et cette réforme consistait en tous les habits dont sa maîtresse n'avait plus l'usage. Et si on en croit la comtesse de Genlis, dans son dictionnaire l'esprit des étiquettes, on peut voir que ce n'était pas neutre. Voilà ce qu'elle écrit. Tout ce qui concernait l'habillement de la reine, c'est-à-dire l'achat de ses habits, de ses dentelles, de ses chiffons, était du ressort de la dame d'Atours. Un droit fort peu noble de sa place était d'avoir à son profit toutes les dentelles et toutes les étoffes d'or et d'argent réformées, et c'était elle qui décidait de ces réformes. On ne laissait aux femmes de chambre que la réforme des simples étoffes, du linge et des chiffons. On assurait que ce droit valait à la dame d'honneur. Alors là, elle parle d'abord de la dame d'Atours et après elle parle de la dame d'honneur. Donc il y a un petit peu des... Elle se confond un peu. Plus de 50 000 francs, c'est-à-dire 50 000 livres. Elle revendait toutes ces choses à des revendeuses de la toilette. Il était fort d'usage d'acheter les dentelles de la reine. Elles étaient superbes et comme neuves. Outre les ajustements, il y avait les couvre-pieds, les toilettes montées. On achetait les robes, les grands habits pour faire des meubles. Alors, si Madame de Genlis commet ici quelque inexactitude, confondant la dame d'Atours et la dame d'honneur, laquelle, la dame d'honneur, donc sa supérieure, avait la réforme du mobilier, du linge et des dentelles de lit et de toilette, elle souligne bien en revanche le profit qui pouvait être tiré de ces deux charges. Puisqu'évidemment, comme je vais vous le dire plus tard, la reine change très régulièrement, évidemment, de vêtements. Chaque année, la dame d'Atours disposait d'une certaine somme pour accomplir les différents achats relatifs à la garde-robe de sa maîtresse, et cette somme avait considérablement augmenté depuis le XVIIe siècle. Alors que la reine Marie-Thérèse, donc l'épouse de Louis XIV, devait se contenter d'un fonds ordinaire de 32 000 livres par an, auquel pouvaient certes s'ajouter des sommes extraordinaires, il avait été décidé, en raison des dépassements devenus trop récurrents, c'est-à-dire qu'on savait très bien qu'on fixait la somme à 32 000 livres, mais qu'à chaque fois on rajoutait, donc finalement on a augmenté la somme, et le budget annuel sera finalement porté à 100 000 livres en 1725 pour Marie Leszczynska, et à 120 000 livres en 1728, toujours par Marie Leszczynska, somme qui était finalement restée en cours toujours avec Marie-Antoinette. Cette forte augmentation ne suffisait toutefois pas et les excédents étaient encore payés par les extraordinaires. Il est vrai que le renouvellement saisonnier de la garde-robe, avant même son usure, était devenu pratiquement systématique au XVIIIe siècle, alors que les habits de Marie-Thérèse, donc l'épouse de Louis XIV, pouvaient être utilisés bien plus longtemps et régulièrement. Le pli était pris et la pratique demeura avec l'arrivée de Marie-Antoinette. En prévision du mariage du dauphin et de la dauphine, alors c'était un peu petit, la duchesse de Villars reçut, je cite, alors c'est par ici, hein, mais vous voyez 100 000 ici, en prévision de ce mariage, elle reçut, je cite, pour l'établissement de la garde-robe de cette princesse, la somme de 100 000 livres en 1769, par les ordonnances des 2 et 25 août, somme qui lui fut à nouveau allouée par une ordonnance du 23 avril suivant. Donc vous voyez qu'on prévoit déjà pour le trousseau 200 000 livres au-delà du budget fixé annuellement. Je saute un petit peu quelques années parce qu'on n'a pas toujours des documents pour la période au moment où elle est dauphine, mais un document de 1779, du temps où Marie-Antoinette était reine, donne quelques informations précises sur les achats effectués chaque année. Ceux-ci étaient regroupés par type d'habits, donc le grand habit, les robes et les polonaises. Alors, il n'y a pas de polonaises en 1770, ça arrive un peu plus tard. Et à l'intérieur de chaque catégorie, par saison. Ainsi, il convenait de prévoir, pour les grands habits, vous voyez ici, alors, grand habit, alors vous me faites confiance, si vous n'arrivez pas à lire, il y a écrit pour l'hiver, pour le printemps, etc. Donc je cite, pour l'hiver, deux beaux neufs pour la Toussaint et le jour de l'an, deux de l'année précédente, ceux de la Toussaint et du jour de l'an, donc on garde quand même certains grands habits, pour Noël et Chandeleur, cinq autres neufs, dont deux agréables, trois moindres, ou encore pour les robes, je cite, pour l'hiver, neuf neuves sur grand panier, dont un pour la veille du jour de l'an, six neuves sur considération, une de la veille du jour de l'an de l'année précédente. Et donc on voit ce renouvellement de robes, et finalement on s'aperçoit en regardant les documents, on a souvent dit ou écrit que Marie-Antoinette ne mettait qu'une fois ses vêtements, ce qui n'est pas vrai. Alors même si elle ne les mettait pas beaucoup, il faut savoir qu'un habit en fait est confectionné d'une certaine manière où ce sont plein de pièces de vêtements qui viennent se plaquer les uns les autres, donc c'est facile de reconfectionner un vêtement avec des accessoires différents. Et Madame Campan donc est un peu plus précise puisqu'elle met « La reine avait ordinairement pour l'hiver 12 grands habits, 12 petites robes dites de fantaisie, 12 robes riches sur panier servant pour son jeu et pour les soupers des petits appartements, autant pour l'été, celles du printemps servaient en automne. Toutes ces robes étaient réformées à la fin de chaque saison, c'est-à-dire qu'à peu près tous les 3-4 mois, ça veut dire qu'on les remisait et donc ça allait chez la dame Latour. » À moins que Sa Majesté n'en fît conserver quelques-unes qu'elle avait préférées. On ne parle point des robes de mousseline, percale ou autres de son genre, l'usage en était récent, mais ces robes n'entraient pas dans le nombre de celles fournies à chaque saison, on les conservait plusieurs années. Ces différentes considérations précisent le fonctionnement et le renouvellement de la garde-robe princière. Contrairement à ce qui a parfois pu être dit, je vous l'ai dit, donc la reine ou la dauphine ne portait pas nécessairement qu'une fois ses habits. Et on a donc la dame Latour, en revanche, qui, pour ne pas être prise au dépourvu, devait bien veiller à l'usure du linge et autres petites garnitures, lesquelles devaient être régulièrement renouvelées. L'ensemble des vêtements était remisé dans la garde-robe aux habits. Alors, je ne sais pas si on voit la subtilité. J'ai fait un petit... C'est là, en fait. On est dans les entresols. Pour ceux qui connaissent bien le château, vous voyez qu'on est sous les petits appartements privés, les cabinets privés de Marie-Antoinette, à ce qui s'appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle... donc on a ici la garde-robe aux habits ou aux atours de la dauphine et qui se situe sous les entresols des cabinets intérieurs de la reine du premier étage. Au-dessus, vous avez la méridienne et la bibliothèque. Et vous avez une vue ici, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'appartement dit de Madame de Tourzel. En fait, c'est l'appartement de la fille de Madame de Tourzel en 1789, pendant quelques mois, pendant que Madame de Tourzel voulait avoir un appartement à proximité pour sa fille. Comme le rapporte Madame Campan, dès que la reine avait choisi les vêtements qu'on lui avait présentés et que la toilette était terminée, je cite, « On faisait entrer les valets et garçons de garde-robe qui emportaient le tout pêle-mêle dans ces mêmes toilettes de taffetas à la garde-robe des atours où tout était reployé, suspendu, revu, nettoyé avec un ordre et un soin si étonnant que les robes, même réformées, avaient tout l'éclat de la fraîcheur. La garde-robe des atours consistait en trois grandes pièces environnées d'armoires, les unes à coulisses, les autres à porte-manteaux. De grandes tables dans chacune de ces pièces servaient à étendre les robes, les habits et à les reployer. La qualité et la richesse du vestiaire étaient telles que les visiteurs étaient autorisés à le voir. On a des descriptions des visiteurs étrangers et c'est ainsi que l'anglaise, Madame Cradock, c'est son nom, hein, excusez-moi, notait dans son journal le 12 juillet 1784, je cite, « Était ce matin avec Madame Gregson voir une partie de la garde-robe de la reine. Les grandes robes sont toutes à la fois d'une richesse et d'une élégance inconcevables. La plupart en satin rose, bleu ou d'autres couleurs sont finalement brodées de perles et garnies soit de dentelles magnifiques, soit de rubans plissés, soit de ganses d'or ou d'argent. » Pour compléter cette garde-robe, il existait dans le pavillon central de l'attique de l'aile du Midi, donnant sur les jardins, d'autres espaces pour le service de la dauphine. Vous avez ici une description, vous voyez, de la garde-robe de Madame la Dauphine en 1770, et en fait, qui correspondait à un appartement qui portait le numéro 92A, hein, qui est un des numéros d'appartement que vous retrouvez notamment si vous lisez les livres de William Richard Newton dans l'espace du roi, et qui sont des numéros qui sont valables depuis 1722 et mis à jour jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Il était composé, dans son état de 87, de 5 pièces, dont 2 à cheminée et une soupente. Cet appartement servait probablement à loger les personnes du service de la garde-robe de la dauphine, telles que la femme de la garde-robe des atours. Ce logement était contigu à celui occupé par la duchesse de Villars, qui était le numéro 92, et lequel se distribuait en 6 pièces, dont 4 à cheminée et 4 entresols, dont 2 à cheminée. Donc j'en viens à 1771, hein, qui est la date de l'inventaire après décès, et au scandale de 1771, et voir si Marie-Antoinette était déjà une princesse frivole ou non. Tant qu'elle n'était pas reine, Marie-Antoinette avait peu de voix au chapitre dans la composition de sa garde-robe. Elle semblait même d'ailleurs assez peu préoccupée de la manière dont elle était habillée. C'est un portrait qui est archi connu, mais en tout cas, en fait, elle est habillée par les personnes qui décident des vêtements qu'elle doit mettre. Elle ne répond en cela en rien au conseil de sa mère, qui, dans sa lettre du 1er novembre 1770, après lui avoir peint, je cite, « les défauts où toute la famille royale de France est tombée depuis longtemps », à savoir que ses membres, je cite, « sont bons, vertueux pour eux-mêmes, mais nullement faits pour paraître, donner le ton pour s'amuser honnêtement », lui rappelait qu'il lui revenait à elle, donc Marie-Antoinette, de, je cite, « donner à Versailles le ton ». Ce n'était donc pas encore le cas, loin de là. Sur la question de l'habillement, elle laissait même poindre son aversion pour le grand corps. Et là, je vous ai mis toute une partie de la correspondance, et j'en ai mis qu'une petite partie, où on voit finalement que Marie-Antoinette est quand même assez rebelle au départ, au grand corps, puisqu'on a toute une correspondance entre Mercier Argenteau, qui est l'ambassadeur de Vienne à Paris, et sa maîtresse, donc l'impératrice d'Autriche. Voilà ce qui est écrit le 4 août 1770, le même soir, donc c'est-à-dire le 2 août 1770. J'eus avec la comtesse de Noailles, donc c'est-à-dire la dame d'honneur, une longue conversation sur plusieurs objets que j'avais déjà remarqués et qui ne doivent pas être négligés. Cette dame d'honneur me dit qu'il n'y avait pas moyen d'engager Madame la Dauphine à mettre un corps de baleine, c'est-à-dire le grand corps, c'est-à-dire ce qui caractérise véritablement le grand habit de cour à la française. Qu'il en résultait que la taille de cette princesse se déformait visiblement et que son épaule droite se dérangeait, ce qui en effet est très vrai et exige des précautions les plus promptes. La comtesse de Noailles m'ajouta qu'elle en avait parlé au roi, mais qu'il n'en avait pas dit et n'en dirait jamais un mot à Madame la Dauphine. Qu'elle me priait instamment de rendre compte de ces trois points à Votre Majesté, laquelle seule pourrait y mettre ordre, que pour elle, comtesse de Noailles, elle n'avait pas assez d'autorité pour se faire écouter, quoiqu'elle prît souvent la liberté d'en parler à Madame l'archiduchesse. Ce à quoi répondit l'impératrice le 1er septembre suivant, « J'ai déjà écrit à ma fille sur la propreté et sur l'usage des corps, mais elle m'a répondu que sur ce dernier article, que comme personne n'en porte en France, elle croit s'en pouvoir aussi passer. » Cette affaire du corps occupe longuement la correspondance, puisque Mercy y revient encore le 19 septembre suivant, développant cette fois-ci plus longuement le caractère de la jeune dauphine. Le refus de porter un corps de baleine, la répugnance à tenir le cercle et le jeu, le discrédit de la comtesse de Noailles, elle l'appelle déjà Madame l'Étiquette, hein, parce que vous savez que c'est cette personne qui, évidemment, la reprenait en permanence pour lui donner tous les codes de la cour de France, et que Marie-Antoinette, entraînée par déjà certaines personnes, préférait critiquer la comtesse de Noailles plutôt que de l'écouter. Donc, le discrédit de la comtesse de Noailles, un peu plus de timidité contractée vis-à-vis du roi, tout cela et bien d'autres petites circonstances sont l'effet de conseils de Madame Adélaïde. Mesdames, par leur éducation, sont timides et dépourvues de tous les agréments propres à plaire, et elles voudraient être imitées par Madame la Dauphine. On sait qu'évidemment, il y a la haine de Madame du Barry, pas des filles de mesdames, qui essayent d'avoir dans leur coterie la Dauphine et de la monter, évidemment, contre le roi, etc. La réponse ne se fait pas attendre, et le 2 octobre, Marie-Thérèse écrit à Merci Argenteau, « Je lui parle très fort pour le corps et pour sa taille, lui mandant, ce qui est vrai aussi, que j'ai vu une lettre de quelqu'un de Bruxelles qui la trouvait très mal habillée et la taille pas bien. À force de rabâchage, l'ambassadeur peut enfin écrire le 20 octobre, je cite, « Son Altesse Royale s'est enfin déterminée à porter assez habituellement un corps de baleine, et pourvu qu'elle veuille bien continuer cet usage, il n'y aura plus d'inquiétude à avoir sur sa taille. » Et vous savez, ça dure encore pendant plusieurs semaines, où on revient sur cette histoire de corps de baleine. Alors avec cette histoire du grand corps, que Marie-Antoinette finalement bannira de son vestiaire dès qu'elle deviendra reine, vous avez ce portrait, vous savez, avec cette fameuse robe de coton qu'a peint Vigée Lebrun à la rose et qu'elle a dû être obligée de repeindre, qui est le fameux portrait que vous avez à Trianon aujourd'hui en habit de cour. Mais on sait que Marie-Antoinette avait banni, pas totalement, mais en tout cas ne portait plus aussi souvent le grand habit de cour. On voit déjà poindre le caractère bien affirmé et un peu rebelle de Marie-Antoinette dans ses comportements vestimentaires. À défaut d'informations précises sur les institutions monarchiques, ce sont souvent les accros au système qui se montrent révélateurs pour comprendre leur fonctionnement. Ainsi, la mort de la duchesse de Villars, le 16 septembre 1771, met au jour un terrible scandale dans la gestion de la garde-robe de la princesse. La dame d'Atours est remplacée par la duchesse de Cossé, qui, à ce qu'écrit Marie-Antoinette à sa mère le 13 octobre 1771, je cite, « a très bonne réputation ». La charge n'est pas neutre puisque le titulaire est l'ordonnatrice et la grande argentière des commandes de garde-robe de la princesse. À en lire la correspondance de Mercier Argenteau avec l'impératrice Marie-Thérèse, il semblerait que la vieillissante duchesse de Villars s'en soit mal acquittée avec la jeune dauphine. Ainsi, l'ambassadeur du Saint-Empire à Paris est obligé, dans une lettre du 29 février 1772 à sa souveraine, de justifier les dépenses excessives de garde-robe que l'on imputait à la jeune princesse. Voilà ce qu'il écrit. Il y a un fonds de 120 000 livres assigné chaque année uniquement pour l'entretien de la garde-robe de Son Altesse Royale. Cette somme est payée sur mandatement de la dame d'Atours, laquelle, au bout de l'an, produit un compte auquel on ne peut rien comprendre et qui, cependant, doit être approuvé et signé par Madame la Dauphine. Lorsque la duchesse de Villars était en place, son âge et ses infirmités l'avaient tellement abattu qu'il s'était introduit un énorme pillage dans son département et qu'au lieu de 120 000 livres, la dépense de la garde-robe pour 18 mois se montait à 350 et quelques mille francs. Quand la duchesse de Cossé entra dans les fonctions de sa charge, elle fut effrayée de cet excès de dépenses et parut attribuer la cause aux fantaisies et aux volontés de Madame la Dauphine. Alors, sur intervention de Mercier Argenteau, il y a un compte détaillé qui est établi et rapidement apparaissent des dépenses qui ne sont absolument pas imputables à Marie-Antoinette, mais résultaient de, je cite, de volerie et d'usage plus que douteux de la part du personnel de sa garde-robe. Ainsi, je cite, les femmes de chambre portaient en dépense 4 paires de souliers par semaine, 3 zones de ruban par jour pour nouer le peignoir de Madame la Dauphine, 2 zones de taffetas par jour pour couvrir la corbeille où on dépose les gants et l'éventail, et il en était de même d'une infinité d'autres articles. En fait, on voit que tout le monde se servait au passage et mettait des dépenses réelles ou non, parce qu'on ne sait pas si elles portaient 4 paires de chaussures par semaine, les femmes de chambre. En revanche, en tout cas, elles étaient portées, c'était peut-être des fausses factures, d'origine déjà des fausses factures, mais en tout cas, vous aviez déjà des malversations. La duchesse de Villars, pourtant, du temps où elle était dame d'Atours de la reine Marie Leszczynska, semblait avoir géré avec parcimonie le budget qui lui avait été alloué, faisant même des économies. Il s'était même alors posé la question de savoir ce qu'il adviendrait du surplus. C'est-à-dire qu'on lui donnait 120 000 livres par an, et c'était, en général, ils étaient dépensés, mais parfois, ça n'était pas dépensé. Il se pose la question, notamment en 1742, de savoir qu'est-ce qu'on fait du surplus. Est-ce que c'est tant mieux pour elle, c'est un revenant bon, c'est-à-dire qu'elle a très bien géré son budget, ou est-ce qu'on le restitue ? Et finalement, il avait été convenu que cet argent pouvait lui appartenir, mais qu'il serait conservé pour les dépenses extraordinaires en cas de dépassement successif. Donc on voit une véritable loyauté de la part de la duchesse de Villars. L'arrivée de la Dauphine amena inévitablement des coûts supplémentaires, mais qui avaient été prévus, on l'a dit, hein, par deux ordonnances de 100 000 livres. Malgré cela, Madame de Villars s'était fait abuser, les malversations ne se firent jour qu'après son décès, donc en septembre 1771. Alors, quel est le bestiaire de Marie-Antoinette en 1771? Et voilà l'inventaire, la page extraite de l'inventaire après décès de Gabrielle Amable de Noailles, donc du chef de Villars, qui est conservée aux archives départementales des Yvelines, parmi les notaires versaillais. Alors, que dire de ce bestiaire? Si on l'a, c'est parce que, précisément, je ne l'ai peut-être pas dit, mais parce que pour moi c'est une évidence, c'est parce que Madame de Villars est morte en charge. Et comme elle est morte en charge et qu'il y a un inventaire qui est fait, on inventorie ce qu'il y a dans sa maison, dans ses maisons. Et en l'occurrence, elle dispose de tout le bestiaire de Marie-Antoinette, puisqu'elle en est récipiendaire, non seulement parce que c'est elle qui payait les fournisseurs, et donc tant que ça ne lui était pas remboursé, ça lui appartenait, et de plus, par droit de charge, comme je vous l'ai dit, par le droit de réforme, tous les trois mois, elle récupérait, et il se trouve que là, en mourant en charge, en 1771, on a ce qui était dans la garde-robe de Marie-Antoinette. Alors que dire de ce bestiaire de Marie-Antoinette en 1771? Alors n'étant pas un spécialiste de la mode, je ne vais pas m'y attarder, mais simplement faire état rapidement de ce qu'on y trouvait. Malgré son statut hétéroclite, il y a 291 items regroupant essentiellement des habits, mais aussi des tissus ou du mobilier, alors assez peu, hein, l'essentiel des 291 items sont des vêtements. Cet état n'en demeure pas moins fort intéressant dans la mesure où un inventaire d'une garde-robe royale, comme je vous l'ai dit, au XVIIe et XVIIIe siècle, précisant les types d'habits façonnés, c'est-à-dire le produit totalement confectionné et assemblé, et d'objets, demeure assez rare, même inexistant pour Marie-Antoinette. L'ensemble des items prisés dans l'inventaire de la duchesse de Villars, donc on le voit ici, vous aviez les items 1 à 273 qui concernent le château de Versailles, les items 274 à 287 celui de Fontainebleau, et les items 288 à 291 celui de Compiègne. Donc parmi ceux-ci, on peut dénombrer 63 grands habits, 75 robes de chambre, simples ou petites, 25 robes simples ou petites, 4 habits pour monter à cheval, 11 caracos, de nombreuses aunes de tissu, alors qui sont les aunes de tissu soit pour les donner aux fournisseurs qui vont fabriquer les robes, soit les aunes dont on a parlé tout à l'heure pour mettre sur les corbeilles de près, de main, etc. D'autres linges, c'est-à-dire des houssoirs, des mouchoirs, etc. Du mobilier, etc. Tout cette garde-robe se monte à une somme qui est finalement assez dérisoire, puisqu'elle est à 17 804 livres, auxquels il convient d'ajouter 1266 livres pour le petit mobilier des garde-robes de Versailles, Fontainebleau et Compiègne. C'est-à-dire que les items qui concernent Fontainebleau, Compiègne et quelques items du château de Versailles, c'est du mobilier pour le petit personnel, c'est-à-dire des paillasses, des lits, etc. Donc cette somme est quand même assez dérisoire, mais c'est assez symptomatique de la manière dont étaient prisés à l'époque les inventaires, et on sait que c'était sous-estimé, largement sous-estimé. À titre de comparaison, la garde-robe de la marquise de Pompadour, qui est morte 7 ans auparavant, a été prisée à 52 482 livres en 1764. Alors, cette importante différence peut s'expliquer pour plusieurs raisons, notamment par le fait que Madame de Pompadour ne réformait sans doute pas aussi souvent qu'une reine ou une dauphine, donc c'est-à-dire qu'elle a tous ses vêtements qui devaient être là en 1764, mais aussi par le fait que Madame de Villars n'était pas la récipiendaire de toute la garde-robe, la dame d'honneur en recevant une partie. Donc, la garde-robe dont je vous parle aujourd'hui, c'est une partie de la garde-robe. Ce n'est pas toute la garde-robe de Marie-Antoinette, puisque les dentelles, non pas les robes, mais les choses un peu plus précieuses, tout ce qui vient agrémenter une robe et en faire le prix, était récupéré par la dame d'honneur. Et on est assez étonné surtout par l'habit de cour dont la prisée la plus élevée atteint seulement la somme de 120 000 livres. Alors, même si chacun de ces habits n'était estimé qu'avec son corset, sa jupe et son bas de robe ou de jupe, on est bien loin du prix d'un grand habit de cour complet avec accessoires et garniture, lequel pouvait atteindre plusieurs milliers de livres selon les commandes passées par les différentes princesses. Alors, je vous donne quelques exemples. Ainsi, celui fourni à la comtesse d'Artois, donc la belle-sœur de Marie-Antoinette, en 1775, pour un total de 4 544 livres, ou celui de la comtesse du Barry, fourni en 1772 pour 5 840 livres, ou encore celui fourni toujours à la comtesse d'Artois en 1780 pour 5 000 livres. Et donc là, vous voyez, les grands habits de Marie-Antoinette, le prix le plus élevé, c'est 120 livres. Donc on sait là que c'était largement sous-estimé. Ce sont donc tous ces ornements de dentelle, de broderie ou de pierrerie qui donnaient du prix aux vêtements, et également la façon, c'est-à-dire ce qu'on appellera par la suite les marchandes de mode, hein, ce que faisait déjà Buffon ou d'autres fournisseurs de la couronne, mais ce que fera particulièrement Rose Bertin en créant en fait ce métier de designer, de styliste avant l'heure, et en disant lorsque Vigée Le Brun fait un tableau, moi je ne sais plus quelle est la formule, c'est Michel Sapori qui l'avait évoqué, au départ un tableau on le payait pratiquement le prix coûtant, et Michel Sapori, en rappelant les propos d'Elisabeth Vigée Le Brun, avait noté que il y avait une façon, c'est-à-dire que ce qu'on vient acheter, c'est non seulement évidemment un tableau, le coût de la peinture, mais c'est aussi la manière dont Vigée Le Brun peignait, et c'est ce que fera Rose Bertin, c'est-à-dire qu'elle aura le génie d'assembler les vêtements et donc de créer ce métier de styliste. Pour l'heure, la garde-robe de Marie-Antoinette en 1771 reflétait un goût assez conforme à celui des grandes dames de son époque. On y trouve une grande variété de tissus, tant dans la matière, du taffetas blanc ou de couleurs, satin, moire, étoffe de Château Renaud, damas, etc. Dans les techniques, glacé, chiné, chamarré, et dans la palette des couleurs utilisées, nuée rose et vert, cerise et vert, vert pomme chamarré de blanc, jaune soufre de blonde, lilas, bleu, couleur de martre, rose et charme de blonde, giroflé, etc. Ainsi que dans les motifs, rayés, à fleurs, etc. Ces teintes fraîches étaient vraiment celles réservées à une jeune fille. Notons enfin que le motif à rayures, dont les goûts n'explosa qu'au milieu des années 1770, était déjà bien présent puisqu'on le retrouve dans pas moins de 57 vêtements. Il n'y a point encore la fantaisie que l'on aura avec une Rose Bertin, et Marie-Antoinette dispose des vêtements fabriqués par les artisans qui travaillaient déjà pour Marie Leszczynska ou encore la comtesse du Barry. Dans un document intitulé c'est le grand habit, l'habit de cour, voilà, bon, vous le connaissez par cœur, voilà, le grand habit de cour avec taffetas de soie blanc, passementerie, frange, blanc. Alors ça, je remercie Pascal Gorgas-Ballesteros qui m'a aidé à décrypter tous les vêtements et toutes ces petites subtilités des vêtements que vous voyez ici mentionnées dans la notice. Et finalement, dans un état de la garde-robe de la Dauphine en 1770, on retrouve tous les marchands d'étoffes de soie qui travaillaient, moi les marchands qui travaillaient déjà pour Marie Leszczynska et Madame du Barry. Donc on voit ici, vous me faites confiance parce que c'est petit et que vous ne pouvez pas le lire, mais vous avez les marchands d'étoffes de soie Barbier qui tenaient le magasin à la Barbe d'Or rue des Bourbedonnais, ou encore Buffaut qui était un des grands concurrents de Rose Bertin, dont le magasin au Grand Turc se trouvait à rue Saint-Honoré, qui dès cette époque devient la rue des marchandes de mode par excellence, ou encore la veuve Bizet, je cite, marchande d'étoffes d'or et d'argent, le sieur Meunier, marchand tailleur d'habits, la demoiselle Philidor, donc de la famille des musiciens, Philidor, marchande de mode et parure, la veuve Payen, qui est la première employeuse de Rose Bertin au Grand Mogol, marchande de toiles et dentelles, ou encore les sieurs Marie Frère, marchands d'étoffes, qui tous avaient pignon sur rue à Paris. je termine mon intervention sur une petite anecdote. Tout ça, je vous ai brossé assez rapidement, c'est un peu mieux détaillé, vous avez l'inventaire complet dans le livre. Mais petite anecdote, c'est à l'époque de l'inventaire de 1771 que Marie-Thérèse, lasse d'attendre un portrait de cour de sa fille, s'était résolue à en recevoir un en tenue de chasse, que vous voyez ici. En effet, elle avait fait des nombreuses relances à Mercier-Argenteau et qui témoignaient de son impatience. Enfin, un tableau répondant à ses attentes fut livré à l'été 1771 et l'impératrice écrivit à sa fille le 8 août, je cite, « J'ai reçu votre portrait en pastel, bien ressemblant. Il fait mes délices et celles de toute ma famille. Il est dans mon cabinet où je travaille. » Et donc c'était l'œuvre de Joseph Kratzinger. Et le costume qu'elle y porte peut être rapproché. Donc là, lorsqu'on regarde l'inventaire, on retrouve exactement les vêtements où on a notamment à l'item 125 un autre habit, une veste et une jupe aussi pour monter à cheval de ratine écarlate, donc on le voit là, à Tresse et Brandebourg en or, donc vous voyez le Brandebourg ici, si j'arrive à trouver, voilà, Brandebourg d'or, et également à l'item 133 où on a deux chapeaux, mais parmi lesquels deux chapeaux de castor à bord d'or, dont un garni de plumes. Et donc là, vous avez le chapeau de castor garni de plumes. Donc on peut faire le lien avec un tableau qui est précisément de 1771, avec l'inventaire qu'on aura de 1771. Je vous remercie, ça se termine un peu comme de doute, mais et je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Poser la question, on a parlé beaucoup de mode, de robes, etc. et peu de chaussures. Et en fait, j'en ai assez peu des chaussures dedans. Je crois que j'ai 4 paires de bottes de chasse et je dois avoir. Alors attendez, je vais essayer de vous les retrouver. Mais moi aussi, je m'étais posé la question. Et je me suis dit, mais il y a très peu de. Et il doit y avoir des paires, mais qui sont vraiment, je ne sais plus comment ils appellent ça, des spartiates ou des choses qui sont des.
Beaucoup de chaussures. Il n'y a pas de structure.
D'accord.
Donc ces chaussures-là, ça met énormément. C'est-à-dire, si vous les voyez, si vous envoyez aux archives, vous voyez que ce sont des chaussures qui n'ont pas de tige. Donc c'est, je ne sais pas du tout comment les femmes marchaient d'ailleurs avec ça. Sinon, il y avait ces modèles de chaussures que portaient aussi les hommes d'ailleurs. C'est comme le mocassin avec un tout petit peu de talon. Et suivant la clientélisée, il peut y avoir des boucles plus ou moins. Il y avait des mules pour porter chez soi, beaucoup, mais toutes ces chaussures-là, on ne peut pas les. Elles ne sont pas arrivées jusqu'à nous.
Non, et puis en plus, je pense, comme vous le dites, parce que vous précisez effectivement qu'on pouvait assez peu les porter, donc je pense qu'une fois qu'elles étaient portées, moi, elles étaient jetées certainement.
Alors vous avez une carte.
En tout cas, j'ai retrouvé, il devait y avoir des bottes de chasse et 4 paires de chaussures, mais qui, je ne sais plus quel est le terme, mais. Oui.
Il y a une paire de chaussures du mal.
Oui.
Archives,
oui, tout à fait.
Mmh.
Qui est un petit et qui avait été présenté à une exposition à Caen, je crois.
Mais c'est étonnant parce qu'on se demande vraiment comment les femmes pouvaient marcher tout ça.
Mais je pense qu'elles marchaient pas. Elles étaient souvent en chaise, même à l'intérieur du château, donc ça limite évidemment l'usure des chaussures.
Non, mais je veux dire,
oui.
On voit aussi comment ce que portaient les femmes.
Oui, tout à fait.
Ça ne tient pas au pied. Enfin, c'est.
Oui, je pense que, comme vous le dites, ça devait être effectivement des sortes de mules.
Vous avez l'Ancret qui a fait la Camargo dansant vers 1750, quelque chose. Enfin, je ne suis pas exactement sur la date, enfin, c'est au milieu du 18e. On voit que cette pauvre femme, elle est danseuse, très à la mode. Alors, elle danse avec un corset, elle danse avec des mules et elle fait des entrechats. On dit qu'elle faisait tout ça avec élégance. Enfin, je le dis pour les femmes.
Et on dit que Marie-Antoinette, je ne sais plus qui est, si c'est Alexandre de Tilly, je crois que c'est pas, on dit qu'elle volait pratiquement.
Oui, elle
sa manière de marcher et tout. Elle ne marchait pas, elle...
Ça va aller mieux.
Alors c'est venu progressivement, c'est-à-dire que déjà sous Louis XV, à Marly, dans les résidences périphériques, exceptionnellement, Louis XV tolérait que les femmes ne soient plus en grand habit de cour, c'est-à-dire que ce corset qui véritablement bloquait la femme, mais c'était vraiment exceptionnel et ça s'est totalement, Marie-Antoinette va faire exploser les codes, c'est-à-dire qu'elle va complètement enlever non seulement le grand corps, mais aussi le corset, le simple corset, et elle va privilégier le confort au maintien. On peut se maintenir très bien aussi sans corset, moi je pense que mesdames, vous devez très bien vous maintenir. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est elle qui va véritablement faire exploser les codes à ce sujet. Mais déjà, dans les années 1745-50, Louis XV tolère que dans certaines résidences, les femmes se présentent en simple robe et non pas en grand habit de cour. Si, il y en a plein. Mais si, il y en a, mais j'en ai pas mis. Mais en tout cas, pour cette période-là, il faut imaginer en fait les robes de Madame du Barry ou des choses comme ça. Hein. Et vous avez toute la comment on appelait cette gazette des atours, etc. Et puis, de 1778, la revue des modes qu'on utilise très régulièrement. Donc là, vous en avez plein dedans. Mais... il est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, en tout cas, à en trouver de la période de Marie-Antoinette. Enfin, vous avez un portrait, mais que vous connaissez toutes et tous, hein, mais qui se... En tout cas, il y en a plein, mais c'est vrai que là, je n'en ai pas montré. Je me suis tenu à ce que je connais un peu mieux, c'est-à-dire les institutions, le fonctionnement. Et comme je n'aurais pas été capable de vous les décrire convenablement, je me suis abstenu de vous les montrer. Bah de rien, je sais pas. Voilà. Bah, je vous remercie tous. Merci beaucoup. Quand même, je suis un peu mon texte pour rester un peu cohérent. Mais finalement.
Non, un grand merci en tout cas.
De rien. De
rien. Non.
Je sais pas où vous signez.
Bah là, vraiment, sur la page, il y a une partie blanche.
Mais il y a ou juste alors... là, parce que oui. Sinon, ça va gâcher. Regardez, si j'ai écrit, ça va pas être beau. Je vais prendre votre prénom.
Lorraine, L-A-U-R-E-N-E.
Parce que c'est écrit depuis alors. L-A-U.
R-E-N-E.
Avec un accent grave.
Oui.
D'accord. Et donc vous faites de l'histoire
ou... Non, je suis dans le cinéma.
D'accord.
Donc j'adore les costumes. Je suis émerveillée par tous les costumes cinéma. J'ai une mère qui est énormément histoire de Versailles.
Et vous travaillez vraiment
Non, moi je travaille pas. Là, je suis script pour le cinéma.
Et vous connaissez Madeleine Fontaine?
Non, j'ai fait plusieurs fois des recherches sur Byrne, ouais. La celle qui avait fait The Duchess.
D'accord.
Donc avec beaucoup des robes à l'anglaise. Et puis j'avais adoré tout ce qui était les robes à l'anglaise, les reading habits et les trucs comme ça.
D'accord.
Et sur le coup, là j'avais trouvé le. Et j'ai acheté justement plein de livres et celui-là c'est ma mère.
D'accord.
Il est vraiment intéressant. Non, bah non, moi justement, j'adorerais voir les costumes au cinéma. Je peux pas me passer d'un film sans voir les costumes, c'est les robes.
Ouais.
J'ai vu la Mademoiselle de Jonquière il y a pas longtemps et ouais. J'ai pas pu voir le film parce que j'étais pris par les robes.
Très bien.
Ouais. Bah alors ces robes avec toutes ces grandes robes à la française, c'est bon.
Bah merci.
Et bah c'est moi, merci beaucoup.
Je vais prendre votre nom.
Christine.
Vous m'avez dit Christine.
Oui, oui.
Je suis très friande de toutes les éditions sur Versailles. Tous les livres, franchement. J'ai acheté le livre d'ailleurs hier, Vivre à Versailles, là, en sa question. J'ai commencé là, c'est très bien.
Merci. C'est pas très pratique, mais ils ont rentabilisé jusqu'au bout leur.
C'est original.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, au revoir. Ben, en fait, ils ont fait un très beau. Parce qu'ils ont voulu que ça ressemble à un carnet de mode. Et c'est cousu. Vous avez le titre couture. Donc c'est assez joli comme.
Oui, oui, tout à fait.
Comme. Voilà. Merci, madame.
Merci beaucoup.
Bonne lecture.
Merci.
Merci. Oui, je vais juste éteindre ça. Si j'y arrive. Voilà. Alors, je vais prendre votre prénom.
Anna-Maria.
Anna-Maria. Deux N. D'accord.
Je suis une amie de Cécile Courtin.
Ah, oui. Très bien.
Oui. Et je suis devenue guide.
Ah.
Du coup,
je vous
de ma passion.
Ce n'est
pas
moi. Ça doit être très bien.
Merci.
Je vous en prie.
Ça me fait tellement plaisir.
Merci beaucoup. Merci.
Merci.
Je ne me rappelle plus votre prénom.
Christian.
Voilà. Voilà bon. Bah oui, mais alors simple. Qu'est-ce que je peux écrire au bout de.
Oh ben. Hein. Merci beaucoup. Mais ça, je trouve ça une très belle idée. Le...
Non mais puis en plus, ils ont
transparent,
ils ont fait de...
comme une vue ouais. Un tulle un peu.
Ouais. C'est ça en fait.
C'est super. Là.
C'est un détail ouais. De ça. Et puis ouais. Ils ont fait surtout des petites coutures qui. On m'a dit que c'était. Bon, en tout cas, c'est... ils m'ont fait un très beau truc.
Ce qui m'a étonné, c'est le... la coloration des robes produites.
Oui.
C'est fou de couleurs.
Oui.
C'est incroyable. On n'imagine pas du tout ce. Autant de pêche
ouais.
Sur ces robes qui étaient sûrement aussi gaies que ça, certaines.
Oui, non, mais c'était.
Parce qu'on a plus de portraits officiels dans la tête, où il y a un peu plus de retenue, mais alors là.
Oui, non, ça, c'est, ça y va.
Il y a une profusion de.
Bon, j'écris que Mathieu. Hein.
Non, mais ça va.
Merci beaucoup. À bientôt.
À très bientôt, oui.
Je vais même pouvoir attraper 40, je pense. Je vais même pouvoir attraper 40.